Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, bien, nous allons cette semaine encore retrouver Pierre Lachambeaudie. Alors, c'est un fabuliste, un poète, un fabuliste né à Montignac, et en Dordogne, bien évidemment. Et il va connaître une vie un peu mouvementée. C'est un bon élève, mais un peu dissipé. Et il sera au séminaire de Sarlat, dont il sera exclu deux fois. C'est déjà pas mal. Et puis, il va terminer sa scolarité, ses études à Brive. Il va faire plusieurs petits boulots, comme on dirait maintenant, et notamment à Roanne, où il va être employé dans une société de chemin de fer. Puis, il va regagner Paris. Il va rater un départ en Amérique et avec les Saint-Simoniens, il va rater également un départ vers l'Égypte. Et il va se retrouver à Paris avec quelques difficultés. Alors, son premier recueil de fables sera imprimé à Sarlat. On en reparlera. Et puis donc, il va connaître une vie un peu mouvementée. Et dans une de ses derniers, recueils de fables, ben, il va faire un peu sa biographie. J'en ai donné lecture un petit peu la dernière fois et on va la reprendre. Alors, la deuxième édition, évidemment, de ces fables, Augustin Chaos m'a fait une préface trop élogieuse peut-être, mais qui me donna beaucoup d'émulation. En 1841, j'ai eu besoin d'entreprendre une troisième. Elle n'était pas encore épuisée lorsqu'en 1843, j'entrais en relation avec Béranger. Ô grand poète, ô mon maître, à qui je dois tant, ma reconnaissance avec toi sera éternelle. Alors, il poursuit, je m'étais marié en 1841 avec une femme aussi pauvre que moi, qui avait eu le courage d'accepter de partager les périls de ma position précaire. Elle est morte en 1851, me laissant un garçon et une fille dignes de l'intérêt que leur ont témoigné nos amis et les parents de ma bonne Joséphine. En 1844, grâce à la protection de Béranger et de Scribe, je partageais avec Pierre Dupont le secours annuel légué par Maillet, Latour, Landry. On reçut 1000 francs et moi 500. Immédiatement, après la distribution des prix académiques, Béranger et Scribe me recommandèrent à M. Perrotin, qui voulut bien se charger d'une quatrième édition, à condition que je rembourserai au plus tôt de ses avances. Et pourtant, Scribe les lui avait garanti. J'obtins avec cette édition une médaille de 2000 francs prélevée sur les fonds légués par Montoyon. Pour les ouvrages utiles aux mœurs, j'épuisais quelques nouvelles éditions, l'une précédée d'une préface de Pierre Vinçard, une autre d'une introduction de Louis Jourdan, éditée par René, imprimeur et libreur, lorsqu'en 1848, me mis en évidence à deux titres différents. J'ai eu l'occasion de faire entendre mes vers dans des clubs, des banquets, des concerts, de plus je fais associé à Auguste Blanqui comme membre du bureau du club qui dirigeait. Au conservatoire de la rue Bérangère. Alors, cette position dangereuse m'a fait remarquer des amis de l'ordre, de mes voisins, des gardes nationaux qui s'empressèrent de me traîner à la conciergerie sans mandat d'amener après les journées de juin. Mais Bérangère obtint la faveur de me faire élargir. Et quelques jours avant que mes co-détenus fussent transférés à Belle-Île. Alors, dans l'intervalle de 1848 à 1851, je récitais souvent mes productions dans des banquets, des concerts, des représentations à bénéfice. M. Michel, éditeur de l'histoire de la classe ouvrière, par Robert Duvar, se mit en rapport avec des dessinateurs et des graveurs pour faire une édition de luxe, précédée d'une magnifique étude sur la fable, par Pierre Leroux. Michel s'est vu forcé de renoncer à la librairie après le coup d'État. Je regrette d'autant plus que c'est le seul éditeur qui se soit occupé sérieusement de la publicité de mon œuvre. Coup d'État me prit un matin à mon lit, rue Faubourg-Saint-Jacques, le 12 décembre, et me rouvrirent les casemates de Bicêtre et d'Ivry. Béranger me fit encore des démarches pour ma mise en liberté. Je le priais de me laisser subir les conséquences de ma position. Je trouvais juste et naturel de partager le sort de mes malheureux compagnons. Bientôt, nous partîmes pour Le Havre, en destination de Brest et de Cayenne, par la frégate Le Canada et le vaisseau Le Duguesclin. Le vaisseau n'alla pas jusqu'à Cayenne. Quant à moi, je fus inscrit sur la liste des exilés. Grâce à la sollicitude incessante et infatigable de Béranger, je choisis pour y être interné la ville de Bruxelles. Bientôt, j'ai publié un petit recueil intitulé « Fleurs d'exil », composé de morceaux que j'avais fait dans les casemates, sur les pontons et en Belgique. Deux ans après, des négociants français s'étant cotisés pour une souscription à mon bénéfice, je fis imprimer une charmante édition portant pour titre « œuvre complète ». En mars, en août 1856, au moment où j'y pensais le moins, je reçus du grand chansonnier une lettre et un passeport pour la France. Il avait obtenu du ministre de l'Intérieur autorisation de me laisser passer 8 jours auprès de mes amis. Les 8 jours expirés, je m'empressais d'aller faire mes adieux à mon protecteur et me conseilla de rester à Paris, ce que je le fis volontiers. En septembre, j'allais à Lyon visiter ma fille et mes parents. À mon retour, je partis le 16 décembre pour la Dordogne. Je voulais célébrer ma 50aine dans le pays natal, au berceau de ma mère. Après 7 mois de séjour dans le Périgord, je revins à Paris, décidé de rentrer en Belgique où m'attendait une dame qui m'a accordé une hospitalité dont elle a pris l'exemple dans Madame de la Salpêtrière et l'initiative dans son cœur tout maternel. Elle a 4 enfants, je suis le 5e. Dans ses affections, j'ai résisté jusqu'à présent au témoignage réitéré de sa sollicitude, ayant éprouvé que le séjour de Paris est indispensable pour tout homme qui met son espoir dans la publicité. Qu'on me permette ici un détail intéressant pour moi au sujet de ma bienfaitrice. J'avais été mis en rapport avec elle par une de ses sœurs qui était venue du Berry lui rendre une visite. Un soir, au milieu d'une causerie familière, je lui exprimais vivement la reconnaissance que je dois aux femmes et le culte que j'aurais voué. « Madame, lui dis-je, vous me tendez la main au bout de ma carrière poétique, c'est une femme aussi qui m'en a ouvert l'entrée. » Et quel est son nom ? Madame Gatti de Gamont. Tiens, c'est ma sœur cadette. C'est ma sœur cadette. Et voilà comment l'intervention fortuite de 3 sœurs dans ma destinée a été pour moi un événement presque providentiel. Monsieur Panière est devenu mon éditeur depuis quelques années. Un éditeur, je dois le dire, un peu indolent à mon égard. J'ai habité 6 ans, le village de Villemomble, où j'ai publié à mes frais un petit recueil intitulé « Fleurs de Villemomble ». Tout récemment, j'ai édité à mes risques un choix de 100 fables et plus récemment encore un supplément à l'édition de Panière et aux mêmes conditions, c'est-à-dire à mes frais. J'ai 61 ans, le 16 octobre 1865, j'ai épousé devine qui, Étiennette Barjot, veuve Labarre, enfant terrible, qui me faisait enrager en 1831. Alors, c'est signé, bien sûr, Pierre Lachabaudy et c'est daté du 22 juillet 1867. Alors, on a parlé, bien sûr, beaucoup de Béranger et dans plusieurs éditions figure la lettre que lui a adressée Béranger. Alors, je ne peux pas, bien sûr, résister à vous lire cette lettre. Vos deux fables sont charmantes, monsieur, et je suis fier que l'une d'elles me soit dédié, si aventurée que soit la comparaison que vous voulez bien faire du rossignol au vieux chansonnier. Je me suis jamais cru qu'un pauvre oiseau, je ne sais trop encore de quelle espèce. Au moins suis-je de ceux qui aiment saluer les belles voix et les doux chants. Voilà pourquoi j'ai cherché les échos pour les engager à répéter si bien que je pensais de vos fables. Je suis heureux qu'un d'entre nous ait redit les paroles. Je me rappelle plus trop, monsieur, des conseils de vieillard que je vous ai donnés, mais ils devaient être excellents et ils ont contribué à vous faire faire le moucheron et la mouche. Je crois plutôt que vous avez écouté votre instinct de poète et que vous faites, à mon expérience, plus d'honneur qu'elle ne mérite. Votre recueil a une telle supériorité sur la plupart de ceux que je connais. Votre style porte si bien l'empreinte de l'étude de mes grands maîtres que des conseils comme les miens ne vous sont pas nécessaires et que je m'étonne que ce recueil ne soit pas aussi connu qu'il devrait l'être. Je vous remercie de la jolie composition gravée que vous m'avez envoyée. Vous avez des amis qui vous comprennent. C'est un grand encouragement. C'est celui qui m'a aidé à traverser des années bien pénibles. Pour eux comme pour vous, je vous souhaite autant de bonheur que vous avez de talent. Recevez monsieur Assurance de mon affectueuse considération et c'est signé évidemment Béranger et ça date du 28 septembre 1842. Alors donc c'est fable, il en a envoyé bien sûr une à Béranger comme il est dit dans cette lettre et voici donc cette, ce poème qui s'intitule « La fauvette et le pinceau » et « Abbé Roger ». Dès l'aube jusqu'au soir, la fauvette chantait, c'était tout son bonheur, toute sa vie. Le pinceau vint lui dire, excité par l'envie, le jais, le merle, le dindon, le corbeau, la pie et l'oiseau disent insolemment que tu devrais te taire. Et toi, malgré leurs cris, malgré leurs sots discours, joyeuse, tu chantes toujours. De ta persévérance, apprends-moi le mystère. Vous m'avez répondu. Hier, au fond des bois, le rossignol, ce roi de l'harmonie, daigna de son doux sourire encourager ma voix. Va, mon frère, quand le génie, oracle irrécusable, applaudit à nos chants, que nous font les clameurs des sots et des méchants. Voilà, donc c'était la faveur, la fauvette et le pinceau dédiée à Béranger. Et puis il y a une seconde fable dont il est question, c'est la mouche et le moucheron. Alors sage, craintif, docile, au conseil de sa mère, loin du feu voltigé, le jeune moucheron. La chandelle lui dit, poltron d'un péril idéal, d'une folle chimère, cesse enfin de t'épouvanter. Viens ou plutôt, viens habiter le magnifique palais que ma flamme environne. Les sylphes des lutins y font une couronne d'azur et de saphir. Elle sera pour toi. Approche, approche, tu vas être roi. Que fait le moucheron? Vous le savez d'avance, ébloui, fasciné par la flamme, il s'élance. Et dans le beau palais, il rencontre la mort. Une mouche était là, vieille, prude, et la dame à l'écart observait le drame. C'est insensé, dit-elle, a mérité son sort. Pourquoi s'envolait-il sur une mèche ardente, que la jeunesse est imprudente? Ainsi, tandis que notre mouche parlait, elle voit sur la table un vase plein de lait. Dans ce nectar, dit la friande, on trouve plaisir et profit. Là, du moins, il n'y a pas de feu qu'on appréhende, mais on peut s'y noyer. Et c'est ce qu'elle fit. Mouche et moucheron, depuis cette aventure, n'évite pas toujours un semblable accident. L'homme, image de Dieu, sublime créature, depuis la chute d'Ève, n'est-il donc pas prudent? Bien sûr, la Chambaudière a écrit beaucoup de fables, aussi, bien sûr. Bon, quand je fais mon récit, il y en a une qui est dédiée à Scribe. Éphémère, enfant de l'orage, du haut d'une montagne, un ruisseau, babillé, sautillant, arrive vers le fleuve et dit, tu n'es pas sage. De ses pentes si largement, tu ne traînes que de la vase, et tu vas épuiser ta source en un moment. À peine a-t-il fini sa phrase, que dans le sable, il disparaît. Le fleuve toujours laisse couler ses ondes pures, abondantes et fécondes. Scribe, dans ce ruisseau, j'ai dépeint très portrait ceux qui, de tes écrits, vous accusant le nombre, mais toi, sans écouter leurs cris injurieux, tu vois un juste oubli, les couvrir de son ombre et tu nous enrichis de tes flots glorieux. Donc c'était dédié à Scribe. Alors bien sûr, il y en a une autre, qu'on est dans les dédicaces, qui est dédiée à sa sœur. Et ça s'appelle La conque et l'enfant. Un enfant aperçoit sur une cheminée une conque jadis par la vague entraînée sur un rivage lointain. Il applique à son oreille, puis il entend aux merveilles un bruit étrange et incertain. D'où vient, dit-il, ce bruit qui cause ma surprise? C'est la voix de la mer que caresse la brise. Dans son souvenir en moi toujours résonne ainsi. Ah, oh ma sœur, à nous aussi murmure une voix touchante de la terre natale, écho mystérieux, quel que soit nos destins, à toute heure, en tout lieu, elle parle à nos cœurs de la patrie absente. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'en effet aussi, évidemment, sur sa région natale, alors je ne sais pas si j'ai le temps, mais il y en a une, bien sûr, qui s'intitule « La truffe et la pomme de terre ». À la pomme de terre, on voulait marier la truffe, mais craignant de se mésallier, celle-ci, d'une voix altière, s'écria « Moi, m'associer à cette ville roturière, moi qui règne au festin du riche et du gourmet, avoir pour compagnon cet être sa noblesse, unir son goût maussade à mon divin fumé. » Ah, ce manque d'égard me confond et me blesse. Allez au champ, mamie, allez au carrefour, nourrir le peuple, vos amours, la parmentière. Et alors repris, il ne te convient pas d'être avec moi si fier, car nous sommes deux sœurs d'un même sol nourri. Si j'en fais vanité, tu ne m'en fais pas un crime. Celui que la misère opprime, à moi jamais vainement n'eût nul recours, je pourrais te rendre offense pour offense, te reprocher tes vilains tours, qu'à plus d'un estomac, qu'à main de confiance, mais chut, tu me comprends, et plus que toi, je serai charitable, tu méprises le pauvre et recherches les grands, je suis utile à tous, n'est-ce pas, préférable. Voilà, et c'était la truffe et la pomme de terre. Alors, ben voilà, je crois que mon temps parti est arrivé à son terme, mais je vous dis à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.